Romain est rentré en prison en 2008 pour homicide lors de son procès aux assises qui s'est tenu un an après. Donc il a pris une peine de 25 ans, dont 16 avec sûreté. Là, il arrivait en fin de sûreté. Hein. Enfin, elle était enlevée du moins. Donc il a été trimballé en premier de maison d'arrêt en maison d'arrêt. Il a fait lui-même une demande de passage en CNE, parce qu'en maison d'arrêt, vu la reliquat de peine qu'il venait de prendre, ben, ça n'allait pas être possible, quoi. Et on sait que quand on est soit en CD en maison centrale, on a quand même un peu plus de liberté, on va dire, entre guillemets. Donc après son passage au CNE, Romain a d'abord été en maison centrale, sachant qu'il a fait presque toutes les centrales de France, sauf Poissy et Esch-Heim, en Alsace. Puis ben, il a commencé quelques années après son arrivée en centrale. Ça n'a pas été tout de suite. Mais quelques années après, a commencé à avoir des pressions, des conditions de détention. On voyait que, ben, en fait, même en maison centrale, les conditions de détention, ben, c'était pas ce qui était. C'était pareil que les maisons d'arrêt ou un CD classique. Hein. Des fois, c'était encore plus pire. Parce qu'en maison centrale, on sait que c'est des longues peines pour la plupart. C'est des peines à deux chiffres. Et les directeurs de la plupart, eh ben, ils sont impitoyables. Donc après, c'est là que moi, on voyait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qu'on essayait de faire ressortir par les avocats, mais ben, on n'était pas écoutés. Les années se sont passées comme ça. Arrivée en 2016, je suis tombée enceinte de ma fille. Romain est arrivé pour rapprochement familial à Valence. Valence, ben, c'était une année où, dès son arrivée, Romain, 15 jours après son arrivée, part au mitard. Sans raison. On le met au mitard sans raison. Donc on ne comprenait pas. Un acharnement dont on ne sait où est sorti. Il a fait ses 15 jours de mitard. Même à l'heure actuelle où je vous parle, on ne sait même pas le motif de pourquoi ce mitard à son arrivée là-bas. Il a voulu se rebeller une ou deux fois, ce qui a porté préjudice, parce que les conditions de détention étaient ignobles, quoi. On les traitait comme des merdes, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Même à l'intérieur, les droits, ils sont bafoués. Ils n'ont pas de liberté, ils n'ont rien.
Donc Valence, il a été placé au quartier Maison Centrale, qui était nouveau.
Oui, elle venait
On
d'ouvrir.
l'avait beaucoup
Ouais.
dénoncé à l'époque.
C'était des tombeaux, des QHS. C'est des QHS. C'est juste ça. On les enterre vivants. Ils sont emmurés vivants. C'est même pas enterrés, c'est emmurés vivants. Leurs droits sont bafoués, la moindre chose qu'on demande est refusée. Nous, on a écrit à l'OIP, on a écrit au contrôleur des lieux de privation de liberté à l'époque de Valence. On avait écrit même au ministère de la Justice, j'ai même écrit au président de la République. On n'a jamais eu de réponse. Et puis, au bout d'un moment, comme disait Romain, je veux bien mettre un genou à terre, mais pas les deux. Et les conditions étaient tellement ignobles qu'il y a eu la mutinerie. Donc, il a fait, la prison a brûlé, hein, mais il n'y avait pas eu de blessés, même côté agent, il n'y avait pas eu de blessés. Enfin, quoique un ou deux porte-clés, hein, ils sont partis partie civile parce qu'il y en avait un qui avait mal au doigt. Voilà. Il avait pris 8 ans.
5 ans,
5 ans,
8 ans
5 ans.
demandés par le
Et 8 ans
proc.
demandés par le proc, ouais. Et on lui a mis 5 ans. On a fait appel, et c'est à ce moment-là aussi, moi, que j'ai contacté, je vous ai contacté. Parce que j'en ai marre de me battre tout seul et j'ai vu qu'il y avait des assos qui se battaient aussi contre ces conditions de détention pour aussi faire sortir la parole de l'intérieur. Et il a eu un appel, c'était quelques mois après, à Grenoble. Il était défendu par Maître Ripert à ce moment-là. La salle apparemment était comble, moi j'ai pas pu y assister malheureusement, en plus j'avais la petite en bas âge. Et ces 5 ans ont été confirmés. Suite à ça, il est monté donc à Condé-sur-Sarthe. Il est reparti sur Condé-sur-Sarthe. À son arrivée, ça se passait relativement bien à Condé-sur-Sarthe. Mais après, quelques temps après Condé-sur-Sarthe, il y a eu des mouvements de blocage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les surveillants pour réclamer, ils réclamaient plus de moyens, hein, des chaussures. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec des chaussures aussi tous les ans, eux. Et plus de matériel type taser, ils demandaient des caméras, mais sauf que ça leur sert pas, les caméras leur servent que quand ils veulent. Donc, nous, vu que ben, y a, moi, je me rappelle, je me rappellerai toute ma vie, j'avais eu VF. Donc, je monte en train le jeudi avec ma petite fille, elle était dans la poussette. On vient me récupérer à la gare, l'association des familles de Alençon vient de me récupérer à la gare. Puis j'arrive, je vois tout un troupeau là, de porte-clés devant la prison. Ah, ils avaient mis le feu par terre dans des pneus. Alors, vive l'écologie, hein, l'environnement. Et on me dit, non, tu ne rentres pas, tu retournes chez toi. Non, mais je leur dis, c'est une blague. Je viens de faire 9 heures de route, de train, avec une petite fille. À l'époque, elle avait 2 ans, ma fille. Je dis, moi, je repars pas. J'ai droit à mon UVF. On ne m'a pas prévenu qu'il y avait un tel mouvement. Donc, c'est que je peux encore rentrer en UVF. Je rentrerai. Et ben j'ai attendu toute une après-midi, sous la pluie. Enfin, j'ai réussi quand même à mettre ma fille à l'abri. Hein. Et... À peu près 16 heures, il y a un surveillant qui vient. Je dis, moi, je voulais avancer, me mettre à l'abri famille, mettre la petite, du moins. Il se met devant la poussette de ma fille. Il me dit, tu passeras pas. Bah alors là, c'est ce qu'il fallait pas dire. Je dis, bah moi, je vais te montrer que moi, je passerai et que je rentrerai à mon UVF. Et je leur ai tenu front tout l'après-midi. Ils voulaient négocier mon départ, que je reparte, même à l'hôtel. Et que quand ils auraient fini, ils m'a rappelleraient pour venir à l'UVF. J'ai dit non, je ne rentrerai pas. Je rentrerai, même si je rentre à 20h, 21h, je rentrerai en UVF. Et je leur ai montré qu'à 21h, 20h30, je suis rentrée en UVF. Certes, avec les casquets, les iris, on avait les flingues pointées sur nous, hein, quand même. Alors je me suis dit, oh, j'ai fait quoi? J'ai une bombe sur moi ou quoi? Et on est rentré quand même en UVF. On a passé nos 3 jours d'UVF. Et ben, je peux vous dire qu'ils tiraient la gueule, hein. Parce que à la base, ils ne voulaient pas me laisser rentrer, mais je leur ai montré qui était le patron ce jour-là.
Sous prétexte qu'ils faisaient grève,
oui.
Ils ne voulaient pas vous laisser avoir droit à votre UVF qui était prévu de longue date.
C'est ça. Et c'était prévu, ben, c'est de mois en mois, hein. Il y a une commission par mois. Et l'UVF était prévu déjà depuis le mois d'avant. Et puis, moi, j'avais mes billets de train et tout. Moi, je ne peux pas annuler tout comme ça. Surtout que ça coûte des blindes quand ben, les détenus, surtout les longues peines, sont mis à plus de 500 km de chez eux. Ça revient, c'est économiquement, des fois, c'est des week-ends très lourds. Donc, on a fait notre EVF. Je suis ressortie. Et ben, ils avaient fini leur moment de grève parce que Belloubé, à l'époque, leur avait dit... Oui, vous aurez vos gilets pare-balles et vos chaussures de sécurité. Donc, ils étaient tout contents, hein, ils allaient avoir leurs nouvelles chaussures. Suite à ça, il y a eu, après, à Condé, leur soi-disant attaque terroriste. Oh. J'y crois pas du tout.
C'est soldé par l'exécution.
Question d'une dame.
Une dame qui oui. venait visiter.
Voilà, et pour. Moi, je voyais cette dame et je peux vous assurer que c'était quelqu'un de très gentil. Et que. Elle ne causait de mal à personne et elle ne s'en prenait à personne. Même eux, elle leur parlait correctement. Donc après donc cette soi-disant attaque terroriste, ils ont fait une sorte de tri au sein de la maison centrale. Ils ont fait bouger pas mal de détenus, dont mon compagnon.
Parce qu'ils ont refait un mouvement à ce moment-là.
Oui, ils avaient refait un mouvement. Ils avaient refait un mouvement en demandant ben, des départs, des transferts. En fait, ils voulaient réorganiser la prison. Donc Romain est parti, il a du coup été à Réau. À Réau, ça s'était relativement bien passé aussi. La directrice était très compréhensible, Madame Detz. Même à l'heure actuelle, je la remercie beaucoup parce qu'elle avait fait beaucoup de choses, cette dame-là. Qu'elle était très humaine comparée à tous ceux que j'avais rencontrés avant et ceux que j'ai rencontrés après. Romain me dit il y avait quand même 400, il y avait 900 presque 900 km aller-retour en voiture. Donc Romain avait demandé son transfert pour près de chez moi. Et le ministère n'a pas voulu le mettre tout de suite à Moulins, l'ont envoyé à Arles. Et à Arles, l'acharnement a recommencé de plus belle. Ça s'était calmé depuis 2016. Après le procès, ça s'était calmé. Le procès en appel, ça s'était calmé. Arrivé à Arles, on ne sait pas pourquoi. Direct, quand il arrivait là-bas, les surveillants mettaient les mains sur les clés et ils leur disaient « Attention, il va nous prendre nos clés, il va foutre le feu. » Tout débrimate comme ça toute la journée.
Là, on est quand il arrive à Arles?
C'était en 2021. Et après, donc, à Arles, bah, c'était débrimade. La directrice ne voulait pas qu'il travaille. Bon, on ne sait pas pourquoi. Moi, je leur écrivais des mails, je continuais ben, à les faire chier, hein, parce qu'ils ne m'aimaient pas. Hein. Je les gênais, moi. Et, ils ont dit qu'ils en avaient marre de moi. Hein. Mais sauf que nous, on ne se laissait pas faire. Et
je Ils ne se sont jamais justifiés de rien. Du
Non,
coup.
jamais justificatif, jamais rien. En fait, pour eux, ce qu'ils lui faisaient subir, je pense que c'était normal pour eux, parce qu'ils sont sans cœur. Sakia, il a pas. À Arne, il n'a pas été au mitard. Parce que, en fait, il prenait beaucoup sur lui, il serrait les dents. Il voulait pas. Il disait son objectif, c'était sortir, nous retrouver à la sortie. Qu'on l'attende devant la grande porte et qu'on soit là qu'à sa sortie. Du coup, moi, j'avais contacté le ministère. Je suis tombée sur un monsieur au ministère. Je lui avais expliqué la situation. Puis économiquement aussi, Arles, je lui ai dit, maintenant, ça suffit. Pour finir sa peine, il faut qu'il soit à côté de moi. J'ai dit, parce que là, c'est pareil. Des fois, je mettais 8 heures aller-retour parce que ben, Vallée du Rhône, Bouchon, plus. C'était long. Avec un enfant, la petite n'en pouvait plus, quoi. Et du coup, on avait négocié avec ce monsieur qui avait eu Romain en visioconférence de la prison et il lui avait dit, on va vous donner une dernière chance, on vous envoie auprès de votre famille à Moulins, sachez que ça va pas être rose, parce qu'avec vos antécédents, ben, il rappelait Valence, hein, mais que le moindre écart, vous partez à Vendin-le-Vieil. Maintenant, à l'heure actuelle, je peux vous dire que limite, j'aurais mieux aimé qu'il aille à Vendin-le-Vieil. Parce que ce serait peut-être en vie. Donc, Romain a accepté. Il lui a dit, il n'y aura pas, je resterai droit tel que je suis maintenant. Ça fait bientôt sur 6 ans que ben, je me tiens calmement. Même là, on ne veut pas me donner du travail et tout. Même le mec du ministère avait dit à la directrice, comment ça se fait qu'on ne veut pas lui donner de travail. Du coup, ben, après, vu qu'il y avait eu ce visioconférence, le lendemain, Romain, bizarrement, s'était retrouvé avec un boulot à Arles. Enfin, il ne l'a pas gardé longtemps parce qu'un mois après, il a été transféré sur Moulins. C'était en août 2021. Donc, il arrive à Moulins. Il commence à prendre ses repères. Puis, il me dit, un jour, il me dit, écoute, il vient de me réveiller tous les jours. Je dis, pardon. Il me dit, oui, toutes les heures, toute la nuit, on vient de me réveiller. Demande à l'avocat. S'il peut faire quelque chose. Et là, donc l'avocat leur écrit un mail et on apprend que Romain a eu un protocole mis sur le dos dès son arrivée, protocole dangerosité renforcée, qu'il n'avait même pas été informé et que c'est pour ça que toutes les nuits, on passait à l'œilleton toutes les heures. On toquait, on le réveillait pour regarder à l'œilleton. Il demandait à travailler, ça a été très compliqué pour travailler, parce qu'on ne voulait pas. Quand il a pu travailler, donc on l'a mis aux ateliers. Il était à l'atelier où il confectionnait ben, les vêtements des porte-clés. Mais sauf qu'il n'a travaillé qu'une semaine. On l'a déclassé parce qu'il était trop grand.
Ah oui, il avait des grandes jambes.
Voilà, il avait trop de grandes jambes pour travailler. Donc ben, nous, sur le coup aussi, ça nous a fait un peu rire. Parce que dire quelqu'un, tu te déclasses parce que tu es grand, ben écoute, c'est ma morphologie. Je peux pas me raccourcir les jambes, quoi.
Embauchez-moi comme hôtesse de l'air.
Voilà.
S'il travaille pas, ça fait quoi?
Ben,
C'est
ça
quoi
fait.
les
Il
conséquences?
n'y a pas de revenus, il ne peut pas payer la télé, il ne peut pas payer le frigo, il ne peut pas se nourrir correctement parce que, sachant que la bouffe est dégueulasse en prison. Surtout qu'à Moulins, aux cuisines, réfrigérateur, four, ça fait un an que ça ne marche pas, même plus d'un an maintenant. Du coup, ben, c'est le seul revenu qu'ils ont, puis ça leur permet aussi ben, de ne pas passer tout le temps en cellule et ben, de s'occuper l'esprit, quoi, on va dire. Et il y a très très peu de travail en prison. Alors quand on me sort, ouais, quand je vois, il y a les contrats de travail mis en place par Moretti. Moretti peut bien se les mettre où je pense, ces contrats de travail. Hein. Parce que même à l'heure actuelle, il n'y a pas de travail. Et c'est au bon vouloir de la direction et si ils apprécient ou non la personne détenue.
Ça permet de faire du chantage.
Voilà. Mais la pression continuait. Hein. C'était des petits blâmes un peu tous les jours. Moins qu'à Arles. Mais ça continuait.
Les réveils nocturnes, ça a duré jusqu'à son hospitalisation là? Ou ça s'était un peu
Non,
arrêté là?
les réveils nocturnes, ça avait commencé donc dès son arrivée en août et ça a duré jusqu'en janvier. Au premier, il comprenait pas pourquoi hein, ces réveils nocturnes, hein, parce qu'on était, il avait pas été, il avait été notifié à aucun moment de son qu'il avait été mis sous protocole renforcé de dangerosité. Donc suite, le protocole a été enlevé en janvier. Ben, c'est là qu'il a pu travailler. On l'avait mis au bâtiment travailleur. Il y a un mois de ça, donc on le change de bâtiment, sans raison. Il était en train de faire. On lui avait retrouvé un petit boulot où il nettoyait des petits couloirs. Et on vient le chercher, on lui dit le chef veut te voir. Et il lui signifie ben, son transfert dans l'autre bâtiment. Et du coup, qu'il perdait son boulot par la même occasion. Donc, on ne lui a pas justifié de suite le pourquoi on le mettait dans l'autre bâtiment. Donc, j'ai contacté les avocats qui ont demandé le pourquoi du comment. Et quand les avocats donc, ont demandé, ça, leur de, la, fait la demande, Romain a été notifié de cette décision. La décision de son notification qu'il a été mis dans l'autre bâtiment non travailleur, c'est parce que Romain disait que Romain ne respectait pas les règles et qu'il voulait être en régime ouvert. Mais sauf que quand on est travailleur en prison, on est obligatoirement en régime ouvert. On n'est pas en régime fermé. Et eux, ils avaient motivé ça en disant que Romain ne respectait pas les règles.
Donc il l'envoie en cellule 23 heures sur 24, sans
Voilà, la
travail.
première semaine, oui, parce que la première semaine, il a été interdit d'être avec, dès son retour, arrivé dans l'autre bâtiment, il a été interdit d'être avec les autres détenus, on ne sait pas pourquoi, hein. À l'heure actuelle, on n'en saura jamais. Du coup, dès son dans l'autre bâtiment, donc ils ont continué l'acharnement. Il y a quelques semaines de ça, il y a 4 semaines de ça, dès son il dormait le matin, il était 6 heures. Et il y a un surveillant qui a tambouriné à sa porte, 6 heures du matin, sans raison, pour le réveiller. Que Romain s'est réveillé, il a gueulé, il l'a traité de sale merde. Il a dit, t'es qu'une merde. Et il a raison, c'est que des merdes. Et du coup, il s'est pris un rapport. Le surveillant a déclenché l'alarme. Même que Romain était enfermé dans sa cellule, a déclenché l'alarme.
Parce qu'il s'était fait insulter.
Parce qu'il s'est fait été insulté de merde.
Il l'a provoqué, il s'est fait insulter,
voilà.
Il a déclenché l'alarme.
Il a déclenché l'alarme et il lui a dit tu prends un rapport. Du coup, il a pris un rapport. Ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas été au mitard. Il s'est retrouvé avec 10 jours de mitard, dont 5 avec sursis. Donc il s'est tapé 5 jours de mitard. Comme il me disait, ça va me faire du bien, ça va me reposer un peu. Mais sauf qu'il n'était pas reposé du tout parce que l'acharnement continuait. Même cette fameuse semaine qu'il a fait le mitard, on s'était vu accusé à tort d'avoir fait pipi dans un litre le week-end d'avant au parloir, ce qui a été faux. Est-ce que ils ont mis 15 jours pour comprendre que ce n'était pas nous. Il y a 3 semaines, donc on partait en UVF, c'était... Je ne me rappelle plus la date exacte. On partait en UVF le vendredi. Donc on rentre à 15h. Puis déjà 2-3 jours avant, Romain me disait qu'il n'était pas bien, qu'il en avait marre, qu'il était stressé, qu'il en avait marre qu'on lui fait une pression comme ça. Et donc on rentre à cet UVF. Il était content, super heureux de nous voir. On s'est dit on va passer un bon week-end avec la petite, ça va nous faire du bien. Puis surtout à lui, ça va faire du bien. Donc on rentre à 15h, 16h, il s'amuse avec la petite, puis je le vois partir dans la salle de bain, et il me dit, j'ai un goût de ferraille en bouche. Et donc il se rinçait la bouche, j'ai dit, ben, tu veux un petit café, peut-être que ça va t'enlever cette odeur. Puis d'un seul coup, il s'est tenu vers le cœur, et quand j'ai vu que transpirer à grosse goutte, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, non, c'est rien, t'inquiète. C'est peut-être un peu de stress, il fait, puis j'ai pas mangé à midi, peut-être ça aussi. Mais je lui dis, non, non, tu vas pas bien. J'ai dit, je vais appeler le surveillant. Donc j'appuie sur l'alarme, enfin pas l'alarme, le bouton, l'interphone. Et il y a un surveillant qui vient, quoi, 10 minutes après, et qui me dit, qui me demande qu'est-ce qui se passe. Je lui dis, il est pas bien, c'est possible qu'une infirmière vienne. Il me dit, non, non. Il fait, y a aucune infirmière n'a le droit de venir au sein du JVF. S'il sort maintenant, c'est retour en cellule, parce que vu l'heure qu'il est, les infirmières sont déjà parties. Et il retournera en cellule et il verra un docteur lundi. Et Romain, comme il me dit, il lui dit au surveillant, il fait, si c'est pour rester jusqu'à lundi en cellule, bah, autant que je profite de mon UVF avec ma famille. Et nous, on était loin de s'imaginer ce qui allait se passer par la suite. Donc il est resté le vendredi, le samedi comme ça. Ils ont pris une fois dans tout le week-end des nouvelles. Le dimanche matin, moi, j'ai vu que ça n'allait pas du tout. 6h30, j'appelle les surveillants. Le surveillant, il dit, on met fin à l'UVF, mais il retourne en cellule. Je lui dis, non, vous voyez qu'il n'est pas bien. J'ai dit, ils lui disent, tu vas te lever, parce qu'il est allongé, on avait déplié le canapé-lit. Il fait, tu vas te lever, tu vas retourner en cellule. Et j'ai dit, non, mais vous foutez de notre gueule, là. J'ai dit, vous voyez qu'il n'est pas bien. J'ai dit, sortez-moi. Il me dit, ouais, moi, on va vous sortir. Moi, j'avais déjà tout préparé mes affaires entre-temps, parce qu'ils ont mis une demi-heure avant de venir. J'avais déjà tout préparé les affaires, donc je prends mes affaires et je dis, je leur ai foutu la pression pour qu'ils me sortent. Et il me dit, mais il va remonter en cellule parce qu'il n'y a pas de docteur de garde. Je dis, appelez le 15, vous appelez les pompiers. Et il me dit, non, mais il faut qu'il soit vu par un docteur de la détention et le seul docteur qui sera là, ça sera lundi. Et je lui dis, non, ça ne se passe pas comme ça, il n'est pas bien. J'ai dit, je me suis engueulée avec eux. Et du coup, tellement que j'ai gueulé, ils m'ont fait sortir en 5 minutes. Je suis vite partie au casier récupérer mon téléphone et j'ai appelé le 15.
Tu sais si lui, ils l'ont obligé à rentrer hors cellule ?
Non. Ouais, parce qu'il ne pouvait pas bouger, il avait plus de force en fait. Okay. Il avait vraiment plus de force, il est resté dans l'UVF. Et même ils ont ronchonné parce qu'ils ont dit normalement aucun corps médical n'a le droit de rentrer enceinte des UVF ou parloir, c'est interdit.
Ouais, parce que c'est une zone qui est moins sécurisée.
Voilà, c'est bon. Donc,
dans leur logique.
Et je lui ai dit, mais moi, je m'en fous. J'ai appelé donc le 15, j'ai expliqué, on me passait un médecin régulateur. Pour une fois, ça a été très, très vite. Et il me dit, bizarrement, on est en train de finir notre conversation, on a la prison de l'autre côté. Je lui ai dit, non, mais écoutez-les pas, ils vont vous dire que c'est juste un malaise vagal ou un truc comme ça. J'ai dit, moi, écoute, il va pas, j'ai dit, je vous ai expliqué les symptômes, il va pas bien. Une fois, j'ai fini avec le SAMU. Du coup, en même temps, j'ai appelé l'avocat pour le prévenir. Et j'ai été au pic devant pour demander comment il allait. Et on m'a traité comme une merde. Sauf que moi, ils ne savent pas ce que je leur réponds. Et donc, je me suis engueulée avec eux. Et ils m'ont dit, de toute façon, c'est rien, dans 2 heures, il est de retour. J'ai dit, dans 2 heures, il n'y a pas de retour parce que je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. C'était pas normal. Et surtout, pour que Romain pleure, surtout devant la petite, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Du coup, 30 minutes après, il est arrivé une équipe médicale, les pompiers. Ils l'ont pris en charge. Ils l'ont sorti, ils l'ont emmené à l'hôpital de Moulins. L'hôpital de Moulins, j'ai suivi l'ambulance. Hein, j'ai même eu des petits propos comme quoi que j'avais pas le droit d'être à l'hôpital parce que c'était une personne détenue, qu'il fallait que je rentre chez moi. J'ai dit non, moi je reste là. J'ai rien entendu toute la journée à l'hôpital avec ma fille. Et après, en faisant un scanner, ils ont vu qu'il y avait une dissection du sang qui s'écoulait vers l'aorte du cœur. Du coup, qu'il fallait une opération en urgence. Donc il a été transféré en urgence sur l'hôpital de Clermont-Ferrand. Il a été opéré le même soir, le dimanche soir. Le chirurgien m'a appelé pour me dire que l'opération s'était bien passée. Le lendemain matin, j'appelle l'hôpital, je leur dis, je viens l'après-midi. On m'a dit qu'il avait été repéré une deuxième fois, parce qu'il y avait eu une petite hémorragie, mais que ça s'était bien passé, mais qu'ils avaient été obligés de le mettre en coma pour pouvoir tout contrôler et stabiliser la situation. Il est resté 9 jours en coma artificiel, où il a eu des petites complications avec infection pulmonaire et il a eu aussi une petite défaillance rénale où il avait une dialyse. Donc au bout de 9 jours, ils ont commencé à le réveiller. Moi, quand il a commencé à le réveiller, moi j'allais auprès de lui. Il me parlait un peu, mais il fallait le temps d'évacuer toute la sédation qui avait été administrée, tout ça. Lundi dernier, j'étais le voir, il me parlait, hein, il était confus, mais il me parlait. Même les jours avant, hein, il était confus, mais il avait sa tête. Quand j'allais le voir, il savait qui j'étais. Il demandait même des nouvelles de Christophe. Quand il a pu bien parler, il a demandé après Christophe. Donc, le lundi, ça c'était... son état était stable. Mardi matin, le 9 août, j'appelle à 9h. On me dit, il a passé une bonne nuit. Il est beaucoup moins confus, même très très bien. Donc j'étais contente parce qu'on m'avait dit il va retourner encore un jour ou deux avec nous et puis il retournera en chambre en normal. Et puis il pourra voir sa fille. 11h30, on m'appelle pour me dire il y a eu une complication. Il a dû être amené d'urgence au bloc. Il est 11h15. 11h15, pas 11h30, 11h15. Et il a une complication, on doit être amené au bloc. Et 30 minutes après, on m'appelle pour me dire qu'en fait, il est mort sur la table d'opération. Que malheureusement, ben, le cœur a lâché. Et il est mort le 9 août à 9, à 11h45. Et de ça, donc moi après, ben, j'ai appelé aussi la prison pour pouvoir récupérer le corps de mon compagnon. Donc il leur fallait un certificat de décès pour faire la levée d'écrou, hein, parce que comme il était toujours sous écrou, le fait qu'il soit hospitalisé. Comme ça, ils m'ont pas fait de bordel. Hein.
Pour ça.
Non, ils m'ont pas fait d'histoire. Dans la journée, la levée d'écrou a été faite et puis. Le lendemain, le nécessaire avait été fait pour que le corps soit rapatrié. Puis là, maintenant, ben, Romain a été inhumé le samedi suivant, le 13. Et maintenant, pour récupérer ses affaires, c'est un parcours du combattant. Depuis hier, donc depuis le 16, je les appelle pour pouvoir récupérer les effets personnels. On me dit le 16 qu'il manque des éléments internes pour pouvoir clôturer tout ça, puis que je puisse récupérer les affaires. Et maintenant, on me dit que c'est par rapport à la succession. Que je pourrais même pas. Je leur ai dit, vous n'avez qu'à garder l'argent, mais rendez-moi moi, les effets personnels, tout ce qui est documents, photos, et récupérer aussi des choses que je tiens, que je veux garder, quoi. Et tant que ce problème succession n'est pas résolu, je ne pourrai pas récupérer ses affaires. On parle dans un micro.
Oui.
Voilà, c'est bon. Et puis maintenant, c'est le combat de pouvoir récupérer les affaires. Et puis aussi faire payer à la pénitentiaire tout ce qu'ils y ont fait parce qu'il n'a pas eu de prise en charge quand on leur demandait. Parce qu'il y a quand même un manquement de soins, un gros manquement de soins. Et aussi, ils n'ont aucun respect.
Est-ce que tu as eu un seul mot de condoléance de la part d'un membre de l'administration pénitentiaire?
Non, jamais.
Même du directeur que tu as eu au téléphone?
Non, le mardi, quand j'ai appelé le directeur, il m'a juste dit « Envoyez-moi le certificat de décès pour que vous puissiez récupérer le corps ». Il m'a pas dit condoléance. Et c'est tout. C'était récupérer les affaires. Mais sauf qu'on m'avait dit « On récupère... » Il m'avait dit ce jour-là, le 9, quand tout serait passé... de l'appeler pour convenir d'un rendez-vous avec lui et de pouvoir récupérer les affaires. Et sauf que maintenant, c'est un autre son de cloche. Voilà.
Qu'est-ce qu'ils ont dit aux compagnons de détention de Romain?
Ils ont allé à la prison pour calmer à l'intérieur parce que vous voyez que tout le monde était un peu sur les nerfs. Ils ont dit que Romain avait fait une crise cardiaque, mais que ça allait mieux, qu'il serait bientôt de retour. Ils ne leur avaient pas dit la vérité, et c'est moi, les familles qui m'appelaient, après ils m'appelaient tous les jours. Ils ont été super, super avec tout le long, et je les ai remerciés, que Romain avait fait la crise cardiaque, et en fait, quand moi je leur ai dit ce qui s'était passé, tout le monde était choqué, puis même à l'heure actuelle, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils ont pas prévenu dès le vendredi, moi, le faire voir à l'infirmière, qui est une infirmière qui vient au sein de l'UVF. Et surtout, ils sont en colère parce que Romain n'est plus là, quoi.
Et quand il était à l'hôpital aussi, la prison, t'as fait quand même 2-3 petits coups, pas...
Oui. Déjà, le premier jour, il voulait, quand le dimanche il est opéré, je suis partie le lundi le voir. La prison ne voulait pas tout de suite envoyer le permis de visite pour que je puisse entrer. Heureusement qu'il y avait la cadre de santé qui a dit « Moi, j'attends pas de permis de visite, c'est sa compagne. Elle rentre auprès de lui, son état est critique. » Parce qu'à la base, la prison, ils ne comptaient pas envoyer les permis de visite tout de suite. Et après, en plusieurs fois, ils ont été essayés de contacter le service réanimation pour savoir l'évolution de Romain. Sauf que c'est secret médical. Il n'était plus au sein de la prison. Certes, il était toujours sous écrou, mais il n'était plus incarcéré. Il était en milieu hospitalier. Et secret médical oblige, ils n'ont rien su de ce qui se passait. Et même moi, j'avais prévenu les docteurs de ne rien leur dire. Parce que la personne de confiance à l'hôpital, c'était moi. Parce que Romain, avant d'être endormi le dimanche pour l'opération, leur avait dit, c'est ma femme, il avait donné mon nom, mon prénom et mon numéro de téléphone. Et s'il y a quelque chose, c'est à elle qu'il faut appeler et personne d'autre.
À un moment aussi, ils avaient essayé de faire croire à quelqu'un à l'hôpital que c'était eux la personne de confiance.
Et oui, oui, oui. Ils avaient dit à un moment, ils avaient dit à la cadre de santé que c'était vu qu'il était incarcéré, c'était eux les personnes de confiance. Mais sauf comme la cadre de santé leur a dit au téléphone et qu'elle m'a redit, non, il avait signé le papier avant d'être endormi. La personne de confiance, c'est sa compagne. Ce n'est pas l'administration pénitentiaire. Et eux, ils n'étaient pas d'accord. Mais sauf que là, ils n'étaient pas en prison. C'était pas une personne détenue. C'était un patient lambda qui était en train de subir des soins très importants et qui n'avait plus rien à voir avec la prison au moment où il était au sein de la réanimation.
Avec l'avocat, en tout cas, qui est Benoît David, vous avez commencé. Enfin, il a entamé déjà des recours et des plaintes.
Il a entamé des plaintes contre l'administration pénitentiaire. Il y en a 5 en tout. Et il va en avoir peut-être par la suite d'autres. Et ils devront répondre de ce qui est, de tout ça, quoi. Il y a une plainte pour harcèlement moral et psychologique, non-assistance à personne en danger. Il y en a une autre, c'est pour aussi manquement aux soins. Et la dernière, c'est aussi pour moi, c'est la façon dont on m'a parlé, en fait, c'est une attaque verbale.
Ouais.
Surtout dans des moments comme ça, ils n'avaient pas à faire ça, quoi. Ouais. C'est que l'avocat disait, ils n'ont pas à vous parler comme ça.
Surtout que l'avocat, en plus, a entendu.
Il l'a entendu,
que
ouais.
Avec,
oui, ouais, ouais.
Ça, parce qu'il était au bout du fil.
Ouais, là, c'est ça. Et là, de toute façon, moi, mon combat continue, puis je lui rendrai justice. De toute façon, il va falloir qu'il rende des comptes. Parce que c'est pas normal, c'est quand même un être humain, d'accord, il a fait une des conneries, il était en train de l'assumer, mais c'est pas normal que le vendredi, on demande à ce qu'ils disent à l'infirmière de venir, qu'on dit non, c'est fin du VF, tu retournes en cellule, ou tu reverras le docteur que lundi, ou soit tu restes dans l'UVF. Et lui, il a choisi de rester en UVF parce que... il avait du temps avec nous, ce qui est logique.
Et puis c'était plus rassurant d'être avec
voilà.
Ses proches, la preuve.
Ouais,
toi, tu peux appeler les secours.
Voilà, moi je l'ai beaucoup rassuré jusqu'au lundi matin. On a passé le samedi, de la nuit de samedi au dimanche, on a passé une nuit blanche. On parlait de tout et de rien pour éviter de penser qu'il avait mal. Mmh. Parce qu'il avait énormément mal. Il n'a jamais perdu connaissance à aucun moment pendant l'UVF. Il a été costaud. Hein. Parce que même dès qu'on a le chirurgien à 23h30 le dimanche quand il m'a appelé, il m'a dit ça tient du miracle qu'il est arrivé en vie au sein de l'hôpital. Pour les fissures de l'aorte, le docteur m'a expliqué, généralement ce sont les personnes âgées qui ont de grosses pathologies.
Et Romain, il a quel âge ? Il avait quel âge ?
Romain, il avait 38 ans. Il allait avoir 39 ans le 23 janvier. Okay. Et le docteur m'expliquait que en fait, donc, c'est beaucoup les personnes âgées qui ont beaucoup de problèmes quelconques, mais aussi la vieillesse, qui ont le cœur fatigué, choses comme ça. Après, tu as une deuxième cause qui peut être liée soit de l'hypertension, choses comme ça, sauf que Romain n'avait pas ça. Romain, il se faisait... il demandait à voir une fois par semaine l'infirmière, juste pour se faire prendre l'attention, comme il faisait beaucoup de sport. Et... même les docteurs nous ont dit, quand dans les comptes rendus médicaux de la prison, il n'a aucun souci de santé. Il était en pleine forme. Même pas de diabète, pas de cholestérol, rien du tout. Et donc, en parlant avec le docteur, il me dit, il y a une troisième cause. Et il me dit, ça peut être lié à la pression, l'anxiété, l'angoisse. Tout ça réuni, qui fait un gros flux de sang qui remonte et qui fait qui fissure l'aorte. Et enfin, eux, ils appellent en termes médical dissection aortique. Et le docteur m'a dit, c'est la pression, nous on est plus sur la pression, l'anxiété, choses comme ça, que sur les deux premiers cas. Parce qu'il était jeune, en pleine santé, sportif, il n'y avait pas de raison.
Dans les plaintes, tu dis qu'il y a 5 plaintes. Il y en a 2 qui vont concerner le manque de soins.
Ouais.
Et... la non-assistance à personne en danger. Mm. Ce qui fait que effectivement la prison, à ce moment-là, ne s'occupe pas de lui.
Mm.
Et heureusement qu'il compte sur toi pour être pris en charge par le SAMU. Oui. Et il y a 2 autres plaintes qui correspondent plus au temps long, hein, ce qui s'est passé bien avant. Ouais. En fait, c'est le harcèlement moral.
L'harcèlement moral, ouais.
Et le traitement inhumain.
Les traitements inhumains, ouais.
Et les traitements inhumains, ça correspond en fait à ce qu'il vit depuis
des années.
Depuis des années, ouais, en détention, depuis 15 ans en fait à ce moment-là, ouais, en détention, et plus particulièrement dans les dernières années,
ouais,
après qu'il ait participé à la mutinerie de 2016.
Ouais.
Et c'est ça en fait ce que l'administration pénitentiaire peut toujours pas en fait lui pardonner pendant 6 ans et qui vont font subir,
ouais,
un enfer pendant 6 ans à cause de cette histoire-là.
Ouais.
Et même après sa mort.
Et même après,
Sa mort, ouais.
L'administration ne peut pas lâcher, en fait. Elle ne peut pas lâcher quelqu'un qui a tenu tête et qui a dénoncé les conditions de détention, voilà, avec autant de dignité et de force comme il l'a fait à l'époque.
Ouais. Mais moi, je continuerai à les dénoncer, hein, parce que c'est des êtres humains, hein, ce n'est pas des animaux. Hein. Au bout d'un moment, il faut qu'ils arrêtent, qu'ils comprennent que c'est pas un numéro, ils n'ont pas qu'un numéro d'écrou, ils ont un nom, un prénom. Ils ont un cœur, ils ont un cerveau, ils sont comme nous, comme eux, comme tout le monde. Et que c'est pas à cause qu'ils ont fait des conneries, d'accord, ils ont fait des conneries, mais ils sont en train de payer leurs dettes. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on les considère tels que, comme un être humain, mais pas comme un animal en cage. On les emmure vivants. On les emmure vivants avec des peines à deux chiffres. Comme on prend des cas en Hollande. En Hollande, on joue sur la réinsertion, on ferme des prisons. C'est pas comme ça qu'on va réinsérer des gens et qu'on va leur montrer on les pousse vers le haut et qu'ils peuvent être quelqu'un de meilleur. Non, au contraire, on les enfonce pour montrer qu'ils sont encore plus pires et qu'ils commettent des actes par la suite lors de leur détention pour dire, voilà, on avait raison, telle et telle personne est dangereuse. Mais non, c'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça qu'on va réinsérer des personnes, des êtres humains.
Mais on sait bien que c'est pas le but.
Voilà.
C'est de la vengeance.
Voilà, c'est juste une vengeance et ils se prennent des malins plaisirs à pousser et à engrainer tout ça. Et c'est pour ça que quand on voit il y a eu telle ou telle chose dans des prisons, que telle et telle personne s'est révoltée ou il y a eu des attaques sur des surveillants, au bout d'un moment, moi je les comprends. Parce que si on leur fait toute la journée de la pression psychologique, au bout d'un moment, on ne peut pas garder tout pour soi. C'est des êtres humains. Ils éclatent et on peut pas, c'est des êtres humains. Ils ont des sentiments, ils réagissent comme tout le monde. De toute façon, la prison tue. La prison, elle tue. Et c'est même eux, de leurs propres mains, qui les tuent. Soit ils les tuent de leurs propres mains, ou soit ils leur font de la pression, jusqu'à les conduire à la mort, parce que, voilà, c'est de l'acharnement, et on n'en veut pas. Pour eux, on n'en veut pas. On ne veut pas de la réinsertion.
Toi, pendant toutes ces années, tu t'es tapé, du coup, des allers-retours partout en France.
Ouais, ouais.
Comme beaucoup de femmes de prisonniers.
Ouais.
Qui se retrouvent, en fait, à suivre et à payer aussi, en fait.
Bah,
et
c'est
à
ça.
Se manger la peine en même temps que...
C'est ça,
que
on les suit de partout, on a double peine. En plus, avec les longues peines, ils sont éloignés de leur famille. C'est pas comme quand on prend des petites peines. Les petites peines, on peut les mettre en maison d'arrêt, céder à côté de chez soi, mais les longues peines, il n'y a pas beaucoup de centrales. Et ça fait que ça les éloigne de plus en plus. Et des familles, des fois, il y en a qui mettent... Moi, j'ai condé sur Sarthe, j'avais... 18 heures de train aller-retour pour aller voir Romain.
Et l'argent que ça coûte aussi.
Et l'argent que ça coûte, parce qu'il faut le transport, dormir, manger. Après, quand on a un enfant, c'est pour deux. Donc, ça revient des frais immenses. Mais après, on le fait parce qu'on les aime, parce qu'on ne veut pas les abandonner. Et je ne l'aurais jamais abandonné. Hein. Et il le sait. C'est ignoble. Quand on voit moi, j'ai déjà vu des gens, des Basques, venir des Pays Basques à Condé-sur-Sarthe, une papy, une mamie qui avait peut-être 80 ans et qui demandait juste leur fils de monter juste à être rapproché dans son pays parce que ça faisait trop loin. Il n'y avait que ses deux seuls parents qui venaient le voir pour le parloir quand ils n'avaient pas d'UVF.
C'est des vies qui ne valent rien pour eux.
Non, ça ne vaut rien pour eux. Pour eux, c'est un numéro d'écrou, c'est tout. Tu l'appelles par un numéro d'écrou. Tu ne l'appelles pas par son prénom, tu l'appelles par un numéro d'écrou. Mais sauf que je ne le répéterai jamais assez, mais c'est des êtres humains. Et des fois, ils valent encore mieux que la pénitentiaire. Parce que la solidarité, moi je l'ai vue là, depuis que Romain est parti. Il y a une solidarité immense. Et c'est pas, on l'a, cette solidarité, on la trouve dehors, on la trouve pas. Parce qu'entre eux, ils vivent des années ensemble, des mois ensemble. Ils sont, c'est une famille, c'est une grande famille. Et tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie. Et ils sont là quand, dans les bandes, et les mauvais, en l'occurrence là, dans un mauvais moment. Et encore maintenant, hier j'ai reçu des appels de famille qui me disent si on est là, si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. Parce que même qu'il est arrivé ça, Romain n'est plus là. Mais ben, il continue à me prendre de mes nouvelles pour voir comment je vais et à soutenir. Et c'est ça qui est beau. C'est parce que même qu'il n'est plus là, il continue. Et moi, je continuerai aussi pour eux à les aider. Donc, maintenant, mon combat sera du grand justice. Et puis, continuer mon combat aussi pour ceux qui restent à l'intérieur. Et aussi, surtout, les soins en prison qui sont inexistants. Voilà. Parce que Romain, il n'aurait pas voulu que je baisse les bras. Il voulait que j'aille la tête droite et que ça soit carré droit. Et pour lui, ça sera carré et droit, je continuerai.
Et on va se bagarrer avec toi.
Ouais, je le sais, ouais. J'en doute pas. Moi, je remercie tout le monde de l'envolée. Merci d'être là. Puis le combat continue et il continuera toujours.
Il n'y a pas d'arrangement.
Pas d'arrangement. On veut bien mettre un genou à terre, mais pas les deux. Petit mot de Romain, un clin d'œil.
Tu veux dire quelque chose ? En fait, mon père, c'était le plus fort.
Until you were gone. Oh, I said I'd get over you, baby. I said I'll be all right. Oh, just when I stop remembering that old spot. Until you were gone.